Vous écoutez La Genèse de Kratos. Je suis Anaïs.
Je suis François.
La Genèse de Kratos, une émission sur l'histoire de la pensée politique, le grand H des 4P. Histoire de pouvoir, de puissance, de politique et surtout de peuple. Commencement, cycle, répétition. Et pourquoi pas réflexion ? On vous démocratise les pensées des plus grandes figures et périodes de tous les temps. Retrouvez-nous un vendredi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h sur Radio Campus Paris. Ce soir, pour ce tout premier épisode de la Genèse de Kratos, nous vous parlerons des grandes figures et pensées politiques instituées lors de la royauté. Le Haut Moyen-Âge et le Bas Moyen-Âge constituent une période de grande évolution où les âges sont marqués par plusieurs théories politiques qui ne cessent d'évoluer et de transformer l'exercice du pouvoir. Nous verrons que les premiers langages politiques de la pensée médiévale ont été façonnés par la pensée augustinienne de Saint Augustin. L'autorité ecclésiastique va en effet avoir une influence majeure sur les lois et le pouvoir des hommes. Mais nous observerons par la suite que le retour de la pensée aristotélicienne au XIIe siècle engendre une rupture et des mutations nouvelles, culturelles et intellectuelles, politiques et institutionnelles. Comment parler de ces évolutions? Où les situer dans le temps et quelles empreintes ont-elles laissées dans l'histoire politique de France? Dans ce podcast, il va être question de comprendre en premier lieu la primauté de l'Église, son influence et son autorité sur les lois, mais également d'observer l'évolution de ses pensées qui tendent progressivement vers une légitimité populaire. Au programme, nous entendrons dans une première partie de l'émission plusieurs témoignages en micro-trottoir. Qu'est-ce qu'évoque cette période pour les citoyens aujourd'hui? Où la situer et par qui? Nous pourrons ensuite entendre une revue historique réalisée par François qui vous décrira en détail les grands fondements de cette période. L'occasion de comprendre les théories de Saint-Augustin, la conception du droit, ainsi que le passage de la suzeraineté à la souveraineté. Enfin, nous aurons le plaisir de recevoir Olivier Matteoni, spécialiste de l'histoire politique et sociale du bas Moyen-Âge. Enseignant-chercheur et historien français à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il est président de la section Histoire et philologie des civilisations médiévales du CTHS. Il est également titulaire d'une chaire d'histoire médiévale et membre du laboratoire médiévistique occidental de Paris. Récompensé pour ses nombreux travaux, il a reçu le deuxième prix Gobert de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ainsi que la médaille de bronze du CNRS en 2000. Spécialiste de l'histoire de la maison capétienne de Bourbon, il nous parlera de la figure de Louis XI en référence à l'un de ses nombreux ouvrages intitulé « Un prince face à Louis XI, Jean II de Bourbon, une politique en procès » paru aux éditions Brochet en juin 2012. Mais surtout, restez avec nous jusqu'à la fin pour un petit topo histoire avec plusieurs suggestions littéraires et cinématographiques. La Genèse de Kratos. Radio Campus Paris. Un sujet bien vaste qu'est l'histoire de la pensée politique au Moyen-Âge. C'est pourquoi, avec François, nous sommes partis réaliser un micro-trottoir en demandant à plusieurs personnes ce que leur évoquait cette période.
Période de la royauté,
oui.
Des grands rois,
oui.
Il y en a eu beaucoup. Après, il y a la monarchie absolue avec Louis XIV. Sinon, on a les rois de la période du XIIe siècle, Philippe le Bel, Saint-Louis, François Ier, Henri IV.
Est-ce que vous avez un regard plutôt positif ou négatif sur cette période-là?
Ah, ça, c'est une question un peu dure parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites, des bonnes choses qui ont été faites. D'un côté, les progrès sociaux et démocratiques ont été faits après la royauté, mais il y a eu des royautés un peu constitutionnelles avec respect de certains droits individuels, donc on ne peut pas dire non plus que ce soit absolument le mal absolu, quoi. Je pense qu'aujourd'hui la démocratie est quand même un peu mieux que le système monarchique.
Quelles figures, quels événements vous pourriez peser dessus?
J'ai envie d'évoquer Guillaume le Conquérant. Je ne sais pas à quelle période ça correspond exactement, mais ça me fait penser à Guillaume le Conquérant. J'avais vu une œuvre très connue sur Guillaume le Conquérant. Un peu chronologique, voilà.
Ça m'évoque une période d'histoire particulière. Et comment vous dire, qui a été à la base de ce qui fait la France et l'Europe de nos jours. Parce que c'est à cette époque que la France est sortie d'une situation, je dirais, économique, politique, dure. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est à cette époque que l'Europe a connu le monde arabo-musulman. Et c'est de la contribution qu'a donnée le monde arabo-musulman à la civilisation occidentale.
La Genèse de Kratos, Radio Campus Paris. Merci à eux pour leur témoignage. Tout de suite, la revue historique de François qui reprendra en détail les points abordés et vous décrira par la suite l'histoire des grands fondements de la pensée politique au Moyen-Âge.
dans cette émission, nous allons traiter de la pensée politique lors du Moyen-Âge. La pensée politique du Moyen-Âge est, à vrai dire, assez mal connue, puisque si on regarde sur les autres grandes périodes, évidemment, il y a des noms qui viennent. Si l'on prend par exemple le cas de l'Antiquité, on a évidemment les trois grands penseurs grecs qui nous viennent en tête, qui sont Socrate, Platon et Aristote. Du côté de Rome, on peut tout à fait penser à Cicéron. L'époque moderne est marquée par les Lumières, donc on peut penser à Diderot, on peut penser à Rousseau, on peut penser à Montesquieu. On peut revenir un peu en avant et on peut penser évidemment à Machiavel ou à Hobbes. Dans le cas de l'époque contemporaine, on a évidemment des noms qui viennent, on a Arendt, on a Heidegger, ou on a par exemple Sartre ou Camus. Évidemment, on n'a pas cité là tous les grands penseurs de ces différentes périodes. On aurait pu prendre Kant, on aurait pu prendre Schopenhauer, on aurait pu prendre Nietzsche, on aurait pu prendre Marx, évidemment. Mais finalement, la pensée politique du médiéval semble largement mal connue, ou en tout cas méconnue. Nous allons voir dans ce podcast quelle est l'évolution du lien entre la religion et la royauté lors du Moyen-Âge, problématique centrale de cette période, mais aussi quelle est la place du peuple dans la légitimité du pouvoir. Évidemment, il nous faut alors un point de départ. Le premier point de départ que nous pourrions prendre, et qui est le plus logique, est Saint-Augustin. En effet, Saint-Augustin a particulièrement marqué la pensée médiévale. Augustin d'Hippone est né en 354 et il meurt en 430. Il est originaire de Tagaste en Numidie. Il est manichéen à l'origine, mais il se convertira au catholicisme à 32 ans, après avoir rencontré l'évêque de Milan, Ambroise. Il va s'engager dans la vie religieuse et il deviendra, en 396, évêque d'Hippone. Il va rédiger une œuvre abondante, qui est La Cité de Dieu, dont le but est d'affirmer l'autorité spirituelle de l'Église. Donc selon lui, le monde est divisé entre deux cités qui doivent coexister. La première est la cité de Dieu, la deuxième est la cité des hommes. Évidemment, la cité des hommes doit disparaître contrairement à celle de Dieu. C'est illustré avec le déclin de Rome. Cette ville va être mise à sac par Alaric en 410, et donc c'est un point central de la pensée de Saint-Augustin. Saint-Augustin va construire une pensée où l'homme obéit au pouvoir temporel. Mais il reprend l'argumentaire de saint Paul, qui est que tout pouvoir a une origine divine. Il va reprendre également le péché originel. L'homme vit sous un pouvoir temporel, car il a désobéi lorsqu'il était au paradis. Il défend l'idée que l'on doit appliquer la justice divine. Il donne ainsi les arguments théologiques pour que les hommes d'église interviennent dans les affaires politiques. Et la société juste est une société régie par le christianisme. Il va aussi penser la loi, dans Traité des lois. Il va la définir ainsi: œuvre de raison en vue du bien commun. Il va en ressortir quatre types de lois: la loi éternelle, la loi naturelle, la loi humaine, la loi divine. Il convient donc tout simplement de définir quelles sont ces lois. La loi éternelle, c'est la sagesse de Dieu qui s'impose en toutes circonstances. Toutes les autres lois découlent de celle-ci et ne peuvent donc en principe rentrer en contradiction. Elles s'exécutent au moyen de la providence. On y remarque ici une influence du stoïcisme qui voyait l'univers régi par une sagesse universelle. Pour la loi naturelle, c'est le prolongement de la loi éternelle dans la société humaine. Elle est le fruit de la nature qui participe à la réalisation des projets de Dieu. C'est la loi de la raison, car tous les hommes sont des êtres raisonnables par nature. Seulement, celle-ci n'est pas suffisante pour guider tout à fait les hommes. Donc, on arrive sur la loi humaine. C'est ce qu'on pourrait appeler globalement le droit positif. Il permet aux hommes d'adapter la loi naturelle aux circonstances de la vie terrestre. Alors, la loi divine. La loi divine, elle est révélée par les textes saints. Elle est donnée directement par Dieu aux hommes. Elle gouverne le croyant dans sa foi, dans les normes morales, les règles du culte ou les préceptes judiciaires. C'est le signe de la perfection de Dieu. Et il va légitimer une forme de pouvoir, qui est la monarchie, dans un ouvrage qui s'appelle du royaume. Je le cite, « Le meilleur est de tirer le modèle de l'office du roi de la forme du gouvernement naturel. Le roi a donc comme but de diriger son action vers l'unité. » Toutefois, il va nuancer son propos avec une idée de régime mixte. C'est une synthèse entre trois modes de gouvernement, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Alors comment ça s'articule? On va choisir le roi pour sa vertu. Les conseillers de celui-ci sont aussi choisis pour leur vertu. Et le peuple a comme devoir de choisir les gouvernants. Il revient donc dans la lignée penseurs de l'Antiquité, comme par exemple Polybe, Cicéron ou Aristote. Mais alors est-ce que ça s'arrête là? Non. On a d'autres penseurs qui vont arriver un peu plus tard, et là on va faire un bond dans le temps, puisqu'on va arriver à Jean de Salisbury. Et lui, c'est le XIIe siècle. Il naît à peu près vers 1110 et meurt vers 1180. C'est un Anglais qui va réfléchir sur les limites du pouvoir royal. En 1159, il va sortir un livre qui s'appelle Polycratus, qui est considéré comme le premier grand traité de politique du Moyen-Âge. Le livre est à charge contre son roi, Henri II, et sa manière de gouverner. Il va condamner les abus du pouvoir, et il va définir les règles du bon gouvernement. On va étudier le livre un peu livre par livre. Donc dans les livres 1 à 3, il attaque les mœurs des courtisans. Dans le livre 4, c'est le lien entre le roi et la loi. Le souverain a un sens inné pour la justice, ce sens fait qu'il respecte la loi divine, dont nous avons déjà parlé, et l'idée de Salisbury est que le souverain, quand il édicte le droit, il agit comme un ministre de Dieu. Donc on a vraiment cette conception qui est théocratique, la légitimité du pouvoir vient de Dieu. Le livre 5 à 6, c'est l'union entre le prince et le clergé. Ce n'est pas la version augustinienne qu'on a vue. Toutes les classes de la société doivent être attachées à ce pacte. Il fait une distinction entre le roi et le tyran. Le roi devient un tyran quand il opprime le peuple. Si le tyran va à l'encontre, il devient donc un ennemi de Dieu, et il faut alors lui résister. C'est lui, véritablement, qui instaure pour la première fois le droit de résistance, qui va être repris par la suite, notamment par Pierre le Chantre et Thomas d'Aquin. Et justement, on va se pencher un peu sur Thomas d'Aquin, puisqu'il faut en parler. Il naît vers 1225 et il meurt en 1274. Il va écrire un ouvrage qui, lui, pour le coup, est central, qui est De Regno. Et cet ouvrage va louer les vertus du roi. Et il va envisager la destitution de celui-ci. Seulement, l'évangile condamne toute révolte contre le pouvoir séculier. Donc évidemment, ça pose un problème. Là, il va émettre une distinction. Un individu seul ne doit pas le faire, mais le peuple a le droit. Pourquoi ? Donc, si je le cite, « S'il est du droit d'une multitude de se donner un roi, cette injustice, cette multitude pardon, peut sans injustice le destituer. La participation du peuple doit rester une exception. Il ne doit pas désobéir au prince si cela amène des désordres. » Donc le consentement populaire devient un élément de la légitimité. Et c'est la première fois que ça arrive. Et il y a un troisième penseur qu'on doit voir, qui est Thomas d'Ockham. Alors lui, c'est 1290 et il meurt en 1349. Et c'est l'autonomie du jugement humain. Il va critiquer une église qui est de plus en plus avide d'argent. Et en 1325, ses écrits vont être censurés, il va même être accusé d'hérésie. Alors il va complètement rentrer en contradiction avec la papauté, et même en conflit avec elle, et jusqu'à la fin de sa vie, il restera en opposition. L'ordre du monde, selon lui, est complètement institué par Dieu. Le Christ a toujours refusé d'être un roi. Pierre n'a pas hérité d'un royaume séculier. Le pape est donc un hérétique, puisqu'il ne suit pas les enseignements du Christ. Donc évidemment, ça pose un petit problème. La hiérarchie épiscopale, pour lui, ne représente pas l'Église chrétienne, mais c'est le rassemblement des croyants. Mais les croyants au sens large, c'est-à-dire que ça peut être très bien le paysan du coin, comme le bourgeois ou comme le noble. Le roi, et donc le roi, n'a aucun compte à rendre aux autorités spirituelles. Donc, si vous voyez ce qu'on a vu juste avant, évidemment, ça rentre complètement en contradiction. Il va terminer en Bavière, ça va être, assez tendu avec toute la hiérarchie du pape. Le pouvoir royal, selon lui, est toujours donné par Dieu. Mais le point particulièrement important, c'est que le pouvoir, par essence, n'est pas fixe. Les lois et les principes éthiques varient en fonction de l'histoire et des événements. Le pouvoir est donc une nécessité qui s'applique à la société des hommes. Mais si Dieu a laissé aux hommes le choix de leur gouvernement, l'adhésion à celui-ci devient donc le fondement de la légitimité. Les lois humaines proviennent de la situation du moment, rien ne permet donc de garantir la justice. Il pose les premières pierres d'une société régie par les principes séculiers. Cette pensée reconnaît les spécificités d'une société et surtout les diversités, contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'avant, qui est beaucoup plus universaliste. Donc on a véritablement un penseur qui est issu de cette hiérarchie religieuse et qui va penser d'une certaine façon à son encontre. Donc évidemment, on peut y voir avec ce personnage, notamment les prémices de ce qui sera la réforme, puisqu'il y a une critique notamment de l'avidité avérée de l'Église à cette période. Est-ce qu'on pourrait peut-être, d'une certaine façon, en faire un précurseur de Luther ? Après, ça reste à voir et y aller doucement. Maintenant qu'on a parlé de ça, il faut aussi voir un peu la société de l'époque, puisque c'est quand même un point, à vrai dire, le plus important. Entre le 9e et 11e siècle, c'est la formation de la société féodale. Il faut bien voir que c'est la chute des Carolingiens, et le roi a perdu une grande partie de ses prérogatives lors de cette période. Il va y avoir un long mouvement qui va du 12e jusqu'au 17e siècle, et c'est la montée en puissance du pouvoir royal. Donc ça se termine jusqu'à l'époque moderne. C'est vraiment quelque chose qui dure sur le temps long. Norbert Elias, sur la société médiévale, il parle de grandes maisons qui sont toujours en conflit pour monopoliser le pouvoir. Le roi de France est particulièrement actif dans cette dynamique. Alors, au-delà des armes, le roi de France, il a plusieurs atouts. Bon, déjà, c'est le roi, donc il n'est le vassal de personne, il n'est engagé qu'envers lui-même. Et la charge royale lui octroie le soutien de l'Église, qui est un poids évidemment extrêmement important dans cette société. La stratégie matrimoniale rentre en compte, puisqu'elle permet d'agrandir le domaine sans se battre. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Alors, pour prendre quelques exemples quand même, pour que ça soit, je dirais, compréhensible pour nos auditeurs, on peut prendre le cas le plus typique, qu'on connaît très bien en France, le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II de Plantagenet en 1152. On sait plus ou moins sur quoi ça a donné, puisque ça a donné la guerre de Cent Ans. Mais ça permettait à Henri de Plantagenet de récupérer quoi ? De récupérer ce qu'on appelait la Guyenne, l'Aquitaine, globalement. Alors on peut aller un peu plus loin, un peu plus proche même de nous, mais bon, même si ça reste très éloigné. En 1469, il y a le mariage de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, donc ce qui a plus ou moins formé l'Espagne. Mais si on suit un peu cette logique-là, et qu'on arrive juste aux prémices sur la fin, sur la bascule avec Charles Quint, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on a un roi qui a l'Espagne, le royaume de Naples, la Sicile, la Franche-Comté, la Belgique actuelle et les Pays-Bas actuels. Donc déjà, c'est beaucoup, mais ça ne s'arrête pas là. Puisque avec toutes les stratégies matrimoniales, il a aussi les territoires des Habsbourg. Mais donc dans toutes ces sociétés, la stratégie matrimoniale est extrêmement importante. Et ce qui va conditionner notamment la politique des rois de France à ce niveau-là, puisqu'on va être enfermé par l'Espagne. Mais ça, c'est encore un autre problème. Pour finir, pour conclure, on a vu deux choses. La première chose, c'est que l'Église, la majorité de la pensée politique, est pensée par des clercs. Et c'est le rapport de Dieu avec le pouvoir royal. Comment le pouvoir royal est d'une certaine façon assujetti à Dieu, puisque c'est Dieu qui lui donne le pouvoir. On peut le voir dans les cérémonies du sacre et ce genre de choses qui reviennent. Puis ensuite, à partir du bas Moyen-Âge, on voit un Moyen-Âge central, bas Moyen-Âge, il y a une autre pensée qui arrive, et cette fois-ci c'est la légitimité populaire. Le peuple est un élément de légitimité pour le souverain. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que le peuple adhère au pouvoir mis en place et aux actions de ce pouvoir-là, puisqu'il fait partie de la légitimité de celui-ci.
La genèse de Kratos, Radio Campus Paris. Bonsoir Olivier Matteoni.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes historien français et professeur d'histoire du Moyen-Âge à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président de la section Histoire et Philologie des Civilisations Médiévales du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques. Vous êtes également membre du Laboratoire Médiévistique Occidental de Paris, spécialiste d'histoire politique du Royaume de France au bas Moyen-Âge et plus précisément de l'histoire de l'État, l'analyse des pouvoirs et des lois, de l'office et des pratiques administratives ainsi que des rapports entre le roi et les princes. Vos nombreux travaux portent essentiellement sur l'histoire de la maison de Bourbon à la fin du Moyen-Âge, mais également des pratiques politiques de Louis XI, dont nous allons justement pouvoir discuter avec vous. On va donc commencer par plusieurs questions avec François.
Comment on peut remplacer Louis XI dans les rois qui ont fait évoluer le pouvoir royal?
Oui, alors Louis XI est un personnage tout à fait intéressant, je dirais même que c'est un personnage assez fascinant. Il y a une double image de Louis XI hein, qui a été conservée par l'historiographie. Il y a une première image qui est une image, disons, un peu négative, c'est-à-dire une image noire du personnage et qui a été forgée d'ailleurs du vivant de Louis XI, notamment par ses adversaires. On pense plus précisément à Thomas Bazin, évêque de Lisieux, hein, qui a écrit une histoire de Louis XI, mais avec des jugements très négatifs sur sa pratique politique. Et de Louis XI, on a dit beaucoup de choses, hein. On a écrit, souligné, on a son cynisme politique, par exemple, son amour immodéré de la chasse, son caractère à la fois emporté, dévot. Voilà, tout ça a été mis en avant et s'est forgé en quelque sorte dès son vivant une sorte d'image un peu noire du personnage. Et Thomas Bazin, hein, pour le rappeler, apparentait finalement les pratiques de Louis XI, les pratiques gouvernementales de Louis XI, à celle d'un tyran. Et cette image, elle a été finalement assez tenace à l'époque moderne et ensuite dans l'historiographie du 19e et du 20e siècle. Alors, ça dépendait naturellement qui écrivait sur Louis XI, car les partisans d'un pouvoir royal fort mettaient en avant sa pratique politique. Et effectivement, dans la, je dirais, généalogie des grands rois de France qui auraient fait l'État, hein, qui ont participé à la construction de l'État royal, on peut dire effectivement que Louis XI a joué un rôle important. Il est dans les grandes figures des rois de la fin du Moyen-Âge. On pourrait citer Philippe Auguste au tournant du 12e et du 13e siècle, Philippe le Bel, bien évidemment, au tournant du 13e et du 14e siècle. Et souvent, on cite après Philippe le Bel, Louis XI. Et Louis XI passe effectivement pour avoir renforcé le pouvoir royal. Alors, dans le sens, certes, d'une pratique autoritaire, Et l'historiographie du 19e siècle, même encore une partie de l'historiographie de la première moitié du 20e siècle, avait retenu de Louis XI eh bien, sa lutte contre les grands princes, ce que les historiens bourgeois du 19e siècle appelaient les grands féodaux. Et dans cette lutte, effectivement, contre les princes, qui a fait d'ailleurs l'objet depuis quelques années d'une relecture, eh bien, la rivalité entre Louis XI et le duc de Bourgogne, donc Charles le Téméraire, a été souvent mis en avant, jugé comme paradigmatique de ce conflit entre le roi et les princes.
Avant qu'on se penche plus précisément sur la Bourgogne, on aimerait parler de la Ligue du bien public qui se déroule en 1465. Est-ce que vous pouvez nous dire les protagonistes ?
Oui, alors la Ligue du bien public, elle s'inscrit parfaitement dans cette dynamique dont je viens de parler, hein, de la rivalité entre le roi et les princes. Et cette Ligue du bien public, elle se déroule en 1465 et c'est, aux yeux des historiens, en tout cas à mes yeux, un événement tout à fait majeur du règne de Louis XI. C'est une sorte de clé du règne. La preuve d'ailleurs, hein, les chroniqueurs, les historiens, les auteurs contemporains y consacrent une place importante dans leurs écrits. J'ai cité Thomas Bazin, mais on pourrait également citer Philippe de Comines dans ses mémoires, ou encore davantage Jean de Roy dans sa chronique scandaleuse, hein, qui consacre à l'année 1465 de très nombreuses pages. Alors, de quoi s'agit-il? La Ligue du bien public, c'est une coalition des principaux princes du royaume qui se soudent, qui se liguent donc contre le roi. Ces princes vont s'associer, hein, par serment et ils veulent protester contre la pratique royale qu'ils jugent autoritaire et attentatoire à leurs droits. Alors, les protagonistes, ce sont les principaux princes du royaume en 1465. Il y a le duc de Bourbon, Jean II, le duc de Bretagne, François II. Il y a Jacques d'Armagnac, qui est duc de Nemours. Il y a aussi et surtout Charles, qui est Charles de Charolais, comte de Charolais, qui est le fils du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, il ne fait pas partie, lui, de la coalition, et c'est son fils Charles qui va jouer un rôle important dans ce mouvement, hein, Charles qui a à ce moment-là 32 ans et qu'on peut juger comme un impatient, c'est-à-dire qu'il attend que son père meure pour monter sur le trône ducal. Et enfin, il y a un dernier protagoniste qui est tout à fait important dans cette coalition, c'est le frère du roi, Charles de France, hein, qui est le dernier fils de Charles VII et de Marie d'Anjou, qui a 20 ans en 1465, alors que Louis XI, hein, est son aîné de 23 ans, héritier présomptif de la couronne en 1465 parce que Louis XI n'a pas encore d'enfant mâle à cette date. Il obtient un apanage en 1461, qui est le duché de Berry, qu'il ne juge pas suffisamment important, en tout cas à la hauteur de son rang. Il va protester, hein, auprès de son frère et il va rejoindre en mars 1465 la coalition des princes.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulé de l'année 1465 un peu plus précisément, vu que là on a maintenant les protagonistes?
Tout à fait. Donc tout va commencer finalement au mois de mars 1465. Il y a deux événements importants. Un premier événement qui est le départ de Charles de France, dont je viens de parler, à la cour du duc de Bretagne, c'est-à-dire qu'il s'enfuit auprès d'un des princes ligueurs importants, le duc de Bretagne. Et dans le même moment, on a l'envoi par le duc de Bourbon. Tout ça se fait mi-mars. Par le duc de Bourbon d'une lettre manifeste, hein, une lettre manifeste qu'il envoie aux autres princes pour dénoncer la politique royale et ses abus. Donc tout s'enclenche à ce moment-là. On va avoir des mouvements de troupes, notamment le roi qui va, alors Louis XI, mettre la main sur l'apanage de son frère, qui a été se réfugier auprès du duc de Bretagne, donc la main sur le duché de Berry. De là, du Berry, il va faire des excursions en terre bourbonnaise, donc sur les territoires du duc de Bourbon, sans partie de confrontation directe, et la confrontation directe entre les troupes royales, elle va avoir lieu au mois de juillet, plus précisément à Montlhéry, c'est la fameuse bataille de Montlhéry, le 16 juillet 1465, qui met en confrontation les troupes royales et les troupes princières, et dans ces troupes princières, il y a une part importante des soldats et combattants qui sont au service du duc de Bourbon. Voilà. Et ce qui est en jeu aussi, on revient vers Paris, c'est la fidélité de la ville de Paris dont le roi doit s'assurer. Mais le roi est obligé de partir en Normandie puisque son frère est en Normandie pour s'assurer la fidélité de cette province, de ce duché de Normandie qui est tout à fait important. Et pendant qu'il est en Normandie, des négociations ont lieu entre les habitants de Paris et les princes, et le roi, eh bien, il s'inquiète de la fidélité de la ville. Il revient sur Paris donc au mois de septembre, et à partir de septembre, on a une phase de négociation qui s'engage et qui va aboutir donc finalement à une paix. Le roi décide finalement de négocier, ce qu'il ne voulait pas faire au départ, et c'est le traité de Conflans qui est signé le 5 octobre 1465 et qui est ratifié le 27 octobre, une sorte de traité général qu'on appelle le traité de Saint-Maur.
Et quel est le contenu de ces traités, justement ?
Alors, ces traités, le roi va beaucoup accorder hein, pour s'assurer finalement la paix, c'est-à-dire qu'il va notamment dans ces traités, eh bien accorder à les princes d'abord de fortes pensions, hein, de l'argent. Voilà, on achète la fidélité finalement par l'argent, par des charges, une charge de lieutenant général, par exemple pour le duc de Bourbon, également mettre sur pied une commission pour la réformation du royaume, hein, théoriquement composée de 36 membres, qui devra se réunir dans les mois qui suivent. Le roi va essayer de jouer du temps. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, cette commission, elle va se réunir quelques mois plus tard, en juillet 1466. Elle ne sera d'ailleurs pas complète, et ses travaux achevés en septembre 1466 ne trouveront aucune finalement application concrète. Et avant, le roi a accordé un pardon général à tous les ligueurs. Alors, ce qu'il faut dire, hein, et pour terminer sur cette ligue du bien public, c'est que cette ligue, elle témoigne quand même d'une contestation des pratiques politiques royales. Faut pas oublier que quand le roi arrive au pouvoir, il va chasser toute une série d'officiers hein, qui avaient été nommés par son père. Il fait moins appel au grand prince pour siéger au conseil royal, et par ailleurs les princes dénoncent la pratique politique du roi. C'est-à-dire, c'est quoi la pratique politique qu'ils dénoncent? C'est une politique fiscale qu'ils jugent excessive, c'est une mauvaise justice, en quoi une mauvaise pratique de la justice, et finalement une violence dans les rapports politiques. Donc c'est ça qui est dénoncé par les princes. Alors est-ce que ces princes défendent leurs propres intérêts? Sans doute, hein, c'est ce qu'a défendu pendant très longtemps une historiographie. On revient un peu sur cette lecture-là, c'est-à-dire que on voit que derrière les propositions qui sont faites par les princes, les critiques et les propositions, parce qu'ils font des propositions, c'est-à-dire qu'ils veulent par exemple une restauration de la bonne justice, ils veulent la convocation des états généraux hein, qui ne s'étaient plus réunis depuis 1439, donc ils ont des propositions politiques. Et en fait, au bout du compte, si on veut essayer de résumer tout ça, ce que les princes veulent, c'est finalement qu'on leur reconnaisse la place qu'ils estiment devoir être la leur dans le royaume. Alors, le pouvoir royal est en train effectivement de se renforcer, mais ils voient aussi qu'ils peuvent perdre une partie de leur autorité, de leur pouvoir, à la faveur de ce renforcement du pouvoir royal. Donc, c'est en fait ce que certains historiens appellent la place des conseillers nés, c'est-à-dire des princes de sang, quelle place désormais dans le gouvernement royal, alors que ce gouvernement royal est en train effectivement de se raidir, en tout cas d'avoir une pratique qui peut être effectivement plus rigoureuse à leur endroit.
Alors j'aimerais qu'on arrive sur l'humiliation de Péronne, enfin ce qu'on appelle l'humiliation de Péronne avec le duc de Bourgogne, mais d'abord la Bourgogne, pour qu'est-ce que ça représente à l'époque exactement?
Alors, la Bourgogne, c'est une puissance qui est tout à fait importante, hein, faut pas l'oublier. Et quand on parle de Bourgogne, hein, faut pas se limiter naturellement au duché de Bourgogne, hein, autour de Dijon et de Beaune. La Bourgogne, c'est deux ensembles, hein, au moment, si on se met au moment où Charles le Téméraire arrive au pouvoir, 1467, c'est deux grands ensembles, c'est ce qu'on appelle les pays de part de ça et les pays de part de là. Alors, les pays de part de là, c'est le noyau dur de la puissance bourguignonne, c'est-à-dire le duché de Bourgogne et à côté la comté de Bourgogne qui se trouve dans l'Empire. Et les pays de part de ça, ce sont les pays septentrionaux autour de la Flandre. Faut pas oublier que Philippe le Hardi s'est marié avec Marguerite, l'héritière du comté de Flandre. Et quand le comte de Flandre meurt en 1383, Philippe le Hardi devient comte de Flandre. Et à partir de ce noyau de la Flandre, les ducs de Bourgogne, et notamment Philippe le Bon, dans la première moitié du XIVe siècle, eh bien, va considérablement agrandir cet espace en, alors par le jeu des héritages, le jeu des mariages, le jeu de la guerre, hein, je rentre pas dans les détails, mais il va considérablement agrandir autour de la Flandre cet espace septentrional de la Bourgogne, hein, c'est la Hollande, la Zélande, c'est le Brabant, c'est le Limbourg. Donc tout ça va former ce qu'on appelle les Pays-Bas bourguignons. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces Pays-Bas bourguignons, pour une bonne partie, sont dans un espace qui n'est pas le Royaume de France, mais qui est l'Empire. Il faut jamais perdre cette réalité géopolitique, c'est-à-dire que effectivement le duc de Bourgogne, même Charles le Téméraire, est possessionné en France pour une partie de ses territoires, mais pour une bonne partie de ses territoires, il est un sujet de l'empereur. Il est dans l'Empire. Et là, les Pays-Bas bourguignons, c'est la puissance économique. Ne l'oublions pas. Hein, c'est là que se trouvent les grandes villes flamande, hein, autour du commerce, de l'activité drapière, hein, c'est la ville de Bruges, c'est la ville de Gand, hein, qui sont des puissances, effectivement, des grandes villes à l'échelle de l'Europe, et qui sont des puissances qui apportent des revenus financiers importants au duc de Bourgogne. Et donc, le fait d'être dans l'Empire fait que le duc de Bourgogne, il a aussi une politique par rapport à l'Empire.
On va arriver à l'humiliation de Péronne, donc ce qu'on appelle l'humiliation de Péronne, qui est en 1467, si mes souvenirs sont bons, donc deux ans plus tard.
Oui. Qu'est-ce que c'est l'humiliation de Péronne? Alors l'humiliation de Péronne, par rapport à ce qu'on vient de dire, le bien public et la situation de la Bourgogne, voilà, c'est aussi ça s'explique aussi par rapport à ces deux événements, cet événement et cette situation, la situation des États bourguignons. Alors qu'est-ce que c'est l'humiliation de Péronne? Ce que les historiens ou ce qu'une certaine historiographie a pu appeler l'humiliation de Péronne. Donc ça a lieu en octobre 1468, ça va se solder par la signature d'un traité, le traité de Péronne du 14 octobre. Donc à cette date, vous l'avez compris, hein, le Charles le Téméraire est désormais duc de Bourgogne, hein, il a succédé à son père quelques mois plus tôt, et à cette date, en 1468, le nouveau duc de Bourgogne vient d'épouser Marguerite d'York, hein, qui est la sœur du roi d'Angleterre, Édouard IV, et bien évidemment le rapprochement entre la maison de Bourgogne et la couronne d'Angleterre, fait craindre au roi une sorte de réactivation, en quelque sorte, de la contestation princière de 1465, qui pourrait, pour le coup, désormais, profiter en plus du soutien anglais. Faut pas oublier que la guerre de Cent Ans s'est arrêtée en 1453, mais que la guerre de Cent Ans n'a pas donné lieu à, je dirais, à la signature d'un traité de paix. Donc, ce que veut le roi de France, c'est essayer de dégager, en tout cas veut éviter une reprise de la guerre, mais de son côté Charles le Téméraire, il a aussi des prétentions et il veut notamment essayer d'obtenir pour un certain nombre de ces territoires qui sont dans le royaume de France une sorte de souveraineté ou en tout cas de se dégager d'une souveraineté royale. Donc on peut dire que Louis XI ici, il accepte la voie diplomatique pour essayer de réduire les tensions avec le duc de Bourgogne. Et donc il accepte de venir à Péronne, de venir s'entretenir avec le duc de Bourgogne. Il arrive à Péronne avec une petite troupe et là, arrivant à Péronne, deux jours après d'être arrivé, le 12 octobre, il apprend qu'une révolte le duc de Bourgogne apprend qu'une révolte vient d'éclater dans la ville de Liège, qui relève de son autorité, qu'elle aurait été encouragée par des agents du roi de France, et Charles, dit l'historiographie de l'époque, furieux, il fait fermer les portes de la ville, et le roi, en quelque sorte, est fait prisonnier, pris au piège. Deux jours passent ainsi, et finalement, le roi accepte d'accompagner le duc de Bourgogne qui veut aller donc à Liège pour mater la révolte. C'est pour ça qu'on parle d'humiliation, c'est pour le roi car il est contraint en quelque sorte de cautionner l'action de répression du duc de Bourgogne et ensuite de retour, le roi va accepter de signer ce traité de 1468. Alors un traité qui confirme des traités précédents, le traité de Conflans, le traité également d'Arras, le roi de France confirme au duc de Bourgogne la possession des villes de Somme et de la Somme, pardon, et surtout il va obtenir un certain nombre d'avantages en matière judiciaire, notamment en matière d'appel pour certains de ces territoires. C'est-à-dire que certains de ces territoires, et notamment les territoires flamands, seront dégagés en quelque sorte de l'appel au Parlement de Paris. Et on voit bien ici que pour le duc de Bourgogne, il y a incontestablement volonté de se doter d'instruments de souveraineté qu'il pourra bien évidemment opposer à un moment donné au roi de France. Et il y a une dernière clause qui est tout à fait essentielle, c'est-à-dire que il y a une clause qu'on appelle une clause de non-respect, c'est-à-dire que le traité dit que si le roi finalement viole les traités d'Arras, traité de Conflans et le traité de Péronne, ou s'il empêche finalement leur application, s'il revenait en quelque sorte sur ce qu'il avait promis et signé à Péronne, eh bien dans ce cas, le duc de Bourgogne et ses hommes seraient en quelque sorte affranchis, eux aussi, de leur engagement scellé dans le traité. Donc le traité, c'est pour ça qu'il est important, il va donner des arguments en quelque sorte à Charles le Téméraire pour affirmer son autorité, voire ses désirs de souveraineté par rapport au roi de France.
Merci Olivier Matteoni d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
Vous êtes, je le rappelle, enseignant-chercheur et historien français à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et spécialiste de l'histoire politique et sociale du bas Moyen-Âge. Parmi vos nombreux ouvrages et articles, vous êtes l'auteur de « Un prince face à Louis XI, Jean II de Bourbon, une politique en procès », paru aux éditions Brochet en juin 2012. Restez avec nous sur Radio Campus Paris pour un petit topo histoire, où nous vous partageons plusieurs suggestions littéraires et cinématographiques. La genèse de Kratos, Radio Campus Paris.
Rebonsoir François.
Rebonsoir Anaïs.
Rebonsoir à nos auditeurs. Nous arrivons à la conclusion et il s'agit ici d'un petit moment pour faire un point histoire en vous proposant quelques suggestions littéraires et cinématographiques.
Alors moi j'ai plus parlé des Lumières.
On t'écoute. Sur l'histoire politique médiale, mais aussi,
aussi
toute
sur
la période.
Parce que c'est aussi intéressant en fait, d'ouvrir, parce que là on a parlé, ça peut permettre aux gens d'avoir aussi une porte d'entrée. Donc moi je pense par exemple à la civilisation de l'Occident médiéval de Jacques Le Goff, notamment qui est une bonne porte d'entrée pour cette période. Alors plus sur le côté pour le pouvoir, pour le coup. Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme de Georges Duby. Alors pour l'art, parce qu'on n'a pas du tout parlé d'art. Pour le coup, mais on peut penser au livre de Michel Pastoureau, L'art héraldique au Moyen-Âge. On a notamment toute la question du Templier qui fait beaucoup débat, le trésor, est-ce qu'il y a vraiment eu un trésor, ceci, cela. Alors, on peut penser au livre de Xavier Larry, Les Templiers. Sinon, on peut penser, moi je pense surtout au livre Moyen-Âge et procès de civilisation de Norbert Elias. Donc ça c'est ce qui est intéressant puisque c'est bien après, il y a beaucoup de réflexions, c'est très intéressant. À lire, en plus c'est pas très long, c'est 200 pages à peu près. Alors, il y a une autre grosse interrogation sur toute cette période, c'est est-ce que les Vikings ont découvert l'Amérique ou non avant Colomb ? Grande question. Hein. Alors là, il faut se pencher sur le livre de Régis Boyer, Islande, Groenland, Vinland. Donc voilà, ça c'est mes petites quelques suggestions de livres pour les auditeurs.
Merci à toi François. Quant à moi, pour les suggestions cinématographiques, la liste n'est pas aussi exhaustive de mon côté, mais j'aurais trois titres à vous proposer. Le nom de la rose, de Jean-Jacques Haneau, voilà, qui est une adaptation cinématographique de l'œuvre de Umberto Eco, que je recommande vivement. C'est un film incroyable avec Sean Connery.
Film, il est intéressant parce que tu as toute la question de la connaissance.
De la connaissance et du savoir.
De l'accès à la connaissance, en fait, même à l'intérieur de l'église. Donc ça, c'est pour le coup, je l'ai vu, j'en ai gardé un très bon souvenir.
Un très bon souvenir, oui. À lire et à voir. Pour le second titre des suggestions cinématographiques, Louis XI, Le pouvoir fracassé de Henri Hellman. Et ensuite, Jeanne d'Arc de Luc Besson.
Après, je t'avoue que le Jeanne d'Arc, je ne l'ai pas vu. Mais je pense que j'irai le regarder, je pense.
Je te recommande ça, François. De quoi allons-nous parler dans le second podcast le mois prochain ?
Eh bien, Anaïs, nous allons parler d'absolutisme.
Je t'écoute.
En fait, comme je l'ai dit dans ma présentation, il y a un long processus qui commence au Moyen-Âge et qui s'achève à l'époque moderne, véritablement de prise de contrôle du pouvoir central sur tout le pays. Évidemment, quand on parle d'absolutisme, on pense à un roi qui est le symbole et qui a créé un lieu qui lui-même est le symbole de l'absolutisme.
Louis XIV.
Louis XIV avec...
Vas-y, je t'écoute.
Bah, Versailles. Donc voilà, donc, c'est ce qu'on va traiter le mois prochain. Alors aussi, bien des penseurs de l'absolutisme. Évidemment, on pense dans ce cas-là à l'outre-Manche et on pense notamment à Thomas Hobbes, dont on va parler un peu plus longuement. Et voilà, comment on met ça en place, quelles sont aussi les grandes étapes. On va essayer de suivre un peu ce processus rapidement, sur quelques dates et expliquer un peu ce qui s'y passe. Et à travers la pensée de Hobbes, je pense qu'on parlera aussi un petit peu de Machiavel, qui est un penseur qui est important, notamment vers la Renaissance. Voilà.
Merci à toi François. Merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous donc le mois prochain pour notre second épisode de La Jeunesse de Kratos sur Radio Campus Paris.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Un grand merci à notre invité Olivier Matteoni, je le rappelle, historien français et professeur d'histoire du Moyen-Âge à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Un grand merci aux participants du micro-trottoir, une émission présentée par Anaïs Carbonel et François Bienvenue. Retrouvez-nous le mois prochain pour notre futur podcast sur l'absolutisme. Bonne soirée et à très bientôt sur La Jeunesse de Kratos pour Radio Campus Paris.